grand angle.
Vous êtes bien sûr Radio Orient, avec vous François-Xavier Decalonne. Près d'un salarié français sur trois a été victime d'une ou plusieurs formes de discrimination ou de harcèlement au cours de sa carrière. Aurore Berger, ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, a présenté mardi les conclusions de Talents de France, des travaux menés qui confirment l'ampleur des discriminations qui persistent dans l'accès à l'emploi. Nous écouterons dans quelques instants la ministre Aurore Berger et vous entendrez aussi l'un des auteurs de ce rapport remis à la ministre, Saïd Amouche, le fondateur du groupe Mosaïque RH. La parole tout de suite à Aurore Berger.
Aujourd'hui, les discriminations, c'est à la fois un gâchis humain qui est absolument insupportable, c'est-à-dire être refusé sur des critères qui ne sont pas des critères objectifs, être refusé en fonction de son origine, de son code postal, de son nom, de son prénom, de son sexe. Et puis c'est une aberration économique au moment où les entreprises, elles peinent à recruter et où la vraie bataille qui est la nôtre aujourd'hui, c'est celle des talents, c'est celle des compétences. Et donc on ne peut plus se satisfaire en fait de cette situation. Et donc l'enjeu, c'est évidemment l'enjeu de l'inclusion économique. C'est pour ça que j'ai lancé Talents de France. 6 mois de travaux dans toutes les régions de notre pays, des quartiers prioritaires politiques de la ville à la ruralité, de l'Hexagone à l'Outre-mer, 30 propositions et puis une charte d'engagement qui est signée déjà par plus de 650 entreprises.
Vous luttez contre les discriminations. Des enquêtes sont régulièrement menées par différentes associations. Ces discriminations perdurent aujourd'hui. Lorsque vous discutez avec des chefs d'entreprise, qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui et quelles mesures devraient être davantage mises en lumière selon vous?
Il y a des discriminations aujourd'hui qui persistent. Il y a un Français sur trois qui dit avoir subi une discrimination au cours de son parcours professionnel. Alors ça peut être son âge, son handicap, sa couleur de peau, son sexe, son code postal. Il y a énormément de critères évidemment qui font que finalement chacun dans sa vie peut à un moment subir une discrimination. Et à chaque fois, encore une fois, ce sont des critères qui sont des critères absolument insupportables et qui sont évidemment illégaux. Les Français ont des droits, et des droits à faire valoir, notamment auprès de la défenseure des droits. Et ça, je pense que c'est important aussi que chacun connaisse réellement ses droits. Puis, qu'est-ce qu'on doit faire en plus? Ce qu'on doit faire en plus, c'est ce qu'on fait notamment avec les entreprises. Parce que moi, je crois à ça. Je crois à l'engagement et à la nécessité de l'engagement. Aujourd'hui, j'ai déjà 650 entreprises qui ont accepté de signer et de signer des engagements chiffrés. 8% de recrutement qui proviennent des territoires ruraux et des quartiers prioritaires politiques de la ville. Jamais on n'a vu cet engagement dans notre pays. 15% de recrutement de stagiaires qui viennent des territoires ruraux et des quartiers prioritaires politiques de la ville. Là encore, jamais on n'avait eu ça. Garantir qu'il y ait toujours un premier entretien qui puisse exister, parce qu'on sait que même si ça n'aboutit pas ensuite sur un emploi, on a besoin de franchir cette étape qui est l'étape de l'entretien professionnel, de l'apprentissage des codes, de la manière avec laquelle on doit se présenter aux autres. Et donc ça, c'est les engagements très concrets, évidemment, des entreprises. Et puis, moi, je vais aussi, maintenant que j'ai les 30 propositions portées par les groupes de travail, on travaille pendant 6 mois, et bien on va les étudier très précisément et surtout, on va aller mettre en œuvre, parce que c'est ça qui est évidemment essentiel.
On l'entend dans votre propos, les discriminations sont parfois sociales, elles sont aussi raciales, hein, l'antisémitisme, le racisme, les actes anti-musulmans, c'est aussi l'un de vos combats. Quel bilan, pour le moment, faites-vous de l'action de votre ministère? Est-ce que cela doit être l'un des sujets phares de l'élection présidentielle à venir, et notamment la lutte contre les différentes extrêmes?
En fait, vous savez, il y a ceux qui cherchent à confronter, à opposer, à hystériser même les Français, à fracturer encore plus le pays. Il y a ceux, au contraire, qui cherchent à réunir et à réconcilier. C'est plus exigeant, c'est plus difficile de chercher à réunir que de chercher à opposer. Mais c'est une nécessité. Parce que qui a envie de vivre dans un pays fracturé? Qui a envie de vivre dans un pays où les uns et les autres ne savent même plus se parler, ne savent même plus se considérer, ne savent même plus se respecter? Puis je présenterai le 9 juillet prochain mon projet de loi dédié à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Parce que ce ne sont pas des sujets dont on débat, ce sont des sujets qu'on combat. Et qu'on combat par l'éducation, évidemment, de nos propres enfants, qu'on combat aussi avec des sanctions qui doivent être renforcées pour ceux qui continuent à jouer avec ces haines qui sont absolument insupportables et pour mieux protéger aussi les victimes de ces haines.
Les actes anti-musulmans et l'antisémitisme, cela se combat de la même manière?
Tous les actes anti-religieux sont absolument insupportables. Et donc il faut que chacun ait le même point de départ. On a le droit d'avoir un avis sur des religions. Dans notre pays, on a même le droit de critiquer les religions, de moquer les religions, mais pas les êtres humains. C'est ça la différence que l'on fait. Une religion, ça peut se critiquer. Quelqu'un qui pratique une religion dans le respect des lois de la République, non, on ne moque pas, on ne stigmatise pas, on n'intimide pas. Et dans notre pays aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des Français qui sont pointés du doigt uniquement du fait de leur culture ou qui sont d'ailleurs ramenés systématiquement à leur culture supposée, à leur religion supposée. Et puis après, on a des spécificités. L'antisémitisme, ça va bien au-delà du fait religieux, on le sait. Et donc, on a des spécificités qu'il faut reconnaître pour mieux combattre, évidemment, l'antisémitisme, d'autant plus post-attentat 7 octobre 2023.
Vous estimez que des partis politiques utilisent notamment les quartiers populaires et leurs habitants. C'est un élément qu'il faut combattre durant cette campagne présidentielle. Et à qui pensez-vous ?
En fait, je pense que extrême droite comme extrême gauche prennent en tenaille nos quartiers populaires, prennent en tenaille les Français. Il y a d'une part l'extrême droite qui dit finalement à une partie des Français « Vous ne serez jamais des Français comme les autres ». Vous serez soi-disant des Français de papier pour toujours. Ils continuent d'ailleurs à les appeler Français issus de l'immigration. Mais il faut combien de générations pour être vraiment Français pour eux ? 2, 3, 4, 10 générations ? Pourquoi on continue à dire à des Français, vous êtes des Français issus de l'immigration ? Pourquoi on a besoin de catégoriser comme ça et finalement de leur renvoyer à l'idée qu'ils ne sont pas ici, chez nous, chez eux ? Et puis, il y a ceux qui essayent aussi de conflictualiser et d'hystériser, notamment sur la question de l'antisémitisme. En refusant de reconnaître les attentats terroristes du 7 octobre 2023, en refusant de les nommer pour ce qu'ils ont été, en oubliant que 51 Français sont morts dans ces attentats, et en refusant de voir que malheureusement dans toutes les démocraties, il y a eu un regain d'antisémitisme. Donc on ne peut pas accepter cette tenaille identitaire qui fait qu'on emprisonne les Français, qu'on oppose les Français, qu'on fracture notre pays. On a besoin au contraire de politiques de réconciliation où on est extrêmement ferme, systématiquement sur la République. Et être ferme sur la République, c'est refuser à la fois toute discrimination, parce que les discriminations, c'est une entaille dans la République, et c'est refuser, évidemment, ceux qui utilisent l'antisémitisme comme un agent électoral. Donc il faut faire ça, et en tout cas, moi, c'est la voie que je vais continuer à porter dans les semaines, dans les mois qui viennent.
Et pour être clair, vous pensez à Jean-Luc Mélenchon et à la France insoumise.
Je pense à la fois à l'extrême gauche, donc à la France insoumise, et à l'extrême droite, donc au Rassemblement national ou à Reconquête. Parce que finalement, c'est les deux faces d'une même pièce. Ils se répondent. Leur seul objectif, leur seule volonté, leur seule envie, c'est quoi ? C'est d'être demain face à face au second tour de l'élection présidentielle. Moi, je pense que les Français méritent mieux. Ils méritent mieux que ce choix-là. Et je ne suis pas sûre que les Français aient envie de se résoudre à ce choix presque impossible entre l'extrême gauche d'un côté et l'extrême droite de l'autre, qui de toute façon, pour notre pays, porte des visions de fracturation de la société, au-delà même d'autres enjeux économiques et sociaux. Et donc je crois que les Français rejetteront cette option, mais il nous appartient aussi à nous, à la fois au sein du gouvernement et responsables politiques, de faire en sorte qu'il y ait des alternatives qui existent.
Merci, merci Madame la Ministre, merci à vous.
Et parmi les auteurs du rapport remis à Aurore Berger, Saïd Amouche, fondateur du groupe Mosaïque RH.
On a profité évidemment de ce rapport pour parler d'abord des discriminations au sens large, les discriminations liées à l'emploi. Et puis on s'est aussi intéressé au cumul de discriminations. Et on sait aujourd'hui qu'il y a un facteur d'accélération. Et donc c'est véritablement une injustice pour toutes les populations en fait d'origine arabe, d'origine subsaharienne. Et ceux aussi qui pratiquent, d'origine musulmane présumée. Et donc on voit que ces questions en fait sur le fait religieux, sur l'origine ethnique, sur l'origine culturelle, favorise davantage les discriminations et c'est quelque chose qu'on a notifié dans le rapport et on a aussi voulu agir en prévenant les risques de discrimination et on a une mesure qui est dédiée à la question en fait du sentiment en fait d'appartenance et puis la question également en fait de l'origine ethno-culturelle. Est-ce que au regard des origines ethno-culturelles, la discrimination dans votre entreprise existe. Et donc là, on a mis en place un outil qui est complètement, en fait, aujourd'hui porté par le Prado sur un guide méthodologique qui est évidemment sous protocole défenseur des droits et qui permet à un moment donné de s'auto-déclarer et montrer, en fait, le niveau, en fait, d'ouverture sur les questions d'origine culturelle, d'origine ethnique dans les entreprises françaises.
Vous avez le sentiment d'être entendu aujourd'hui par la plupart des entrepreneurs, des progrès sont réalisés, vous qui travaillez sur ce sujet depuis plusieurs années.
Alors, il y a quelque chose qui est hyper important, c'est que on rencontre beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui n'ont pas vraiment conscience de discriminer et qui ouvrent véritablement leurs portes pour pouvoir construire des dynamiques de recrutement, de collaboration avec des entrepreneurs issus des quartiers politiques de la ville, issus des quartiers populaires ou même de la ruralité. Et donc, nous, on a voulu concentrer en fait notre message sur la capacité à construire des réponses qualitatives. Par exemple, voilà, une entreprise qui va recruter 100, 200, 300 collaborateurs dans l'année, elles vont se fixer 8 à 10% en fait de recrutement de populations issues de ces territoires. Et on sait que sur ces territoires, l'élément lié aux origines culturelles se cumule. Et donc, c'est un levier pour pouvoir recruter davantage. On fait la même chose sur les questions d'alternance. On a des grandes entreprises françaises aujourd'hui qui recrutent beaucoup en alternance. Comment, en fait, cette opportunité de recrutement en alternance peut aussi aller chercher et permettre une égalité de traitement à compétences égales de ces jeunes qui habitent les quartiers populaires.
Saïd Amouche, fondateur du groupe Mosaïque RH, fin de votre émission Grand Angle. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient et un grand merci pour votre fidélité.
C'était Grand Angle.